été au jeu. Merci beaucoup à tous les sept. Et on va avancer vers la conclusion de cette première soirée. Il nous a été... Axel Kahn avait souhaité que pour cette première soirée, il y ait deux grands témoins avec une règle du jeu assez sympathique et tant qu'ils avaient carte blanche. Monsieur le grand témoin, Aymeric Guillermou, il faut monter avec moi le temps que l'autre grand témoin parvienne jusqu'à nous, Éric Molinier.
Oui, c'est bon, il arrive. Bonjour. Oh, pardon. Bon. Salut. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est fait.
C'est bon ?
Je suis là.
Vous êtes là. Celui-là, il ne marche plus.
J'ai un micro.
Vous en avez un, mais... Il faut que la soirée s'achève pour les micros. Alors, on a deux grands témoins. Il vous a été donné par Axel Kahn, et c'est à signaler, une absolue carte blanche. Ça veut dire que vous aviez le droit de choisir, évidemment, le thème qui vous paraissait important à pousser dans le handicap. Effectivement, avec tous les critères qui ont été développés au début, c'est-à-dire de la recherche appliquée, de l'évaluation et de l'excellence. Je vais peut-être commencer avec vous, Éric Molinier. On vous présente, la halle de SAMU Social, le président conseiller auprès du président d'EDF. Et vous avez choisi de nous parler d'un thème qui est peu évident et peu abordé, qui est handicap et précarité. C'est bien cela ?
C'est bien ça.
Et alors déjà, effectivement, on se rend compte que, de prime abord, c'est pas ce qu'il y a de plus mis en avant dans les médias. Et deuxièmement, le lien avec la recherche n'est pas évident, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir.
Oui, bonsoir à tous et à toutes. En fait, c'est un sujet dont j'ai parlé à plusieurs reprises avec un des vice-présidents de l'AFIRA, Pascal Jacob, avec Axel Kahn, avant l'été. Et finalement, c'est en fait au croisement de mes expériences que vous avez citées que ce thème a émergé. Pourquoi ? D'abord, mon expérience d'abord à l'AFM, puis à l'APF, où, c'est vrai, et à juste titre, on tient à dissocier ce qui relève de la politique de compensation du handicap de ce qui est d'une question sociale, d'un revenu minimum, comme tout un chacun. Mais on voit bien quand même qu'il y a des interactions, un cercle vicieux entre handicap et pauvreté, que le fait de ne pas avoir pour une personne en situation de handicap, un accès à la formation, à l'éducation, l'accès physique à des lieux, va être des facteurs aggravants en matière de pauvreté. Ça, c'est ma première expérience. La deuxième, c'est au SAMU Social. En fait, quand je suis arrivé à la présidence du SAMU Social il y a 2 ans, un de mes premiers actes a été de venir dans cette salle, ici, pour rendre compte d'une étude de l'Observatoire du SAMU Social de Paris, étude scientifique, qui était une étude épidémiologique sur l'état de santé psychique, handicap psychique et SDF. Et avec des chiffres assez frappants, puisqu'on s'était aperçu qu'un peu plus d'un tiers des personnes à la rue sur les 1000 personnes interrogées avaient des problèmes psychiques dont on ne savait pas s'ils étaient prédéterminés avant d'être à la rue ou si la rue était même un facteur aggravant. Il y avait tous les cas de figure, bien évidemment. Et là, je me suis dit que cette réflexion que j'avais pu faire sur handicap et pauvreté à l'APF était renforcée, amplifiée sur le thème de handicap et précarité, sous l'angle peut-être là davantage encore du handicap psychique, mais pas que. Quand on dit que plus de 30% des gens à la rue souffrent d'un handicap psychique grave, eh bien, il ne faut pas non plus oublier, comme le disait Axel tout à l'heure, le vieillissement des populations, Jean-Claude Amézène, et le fait que dans ces populations SDF-là aussi, l'accompagnement, la prise en charge, les mises à l'abri font que ces gens-là, et c'est tant mieux, vivent plus longtemps, et là aussi développent du fait de leurs addictions, de leurs pathologies, eh bien, des handicaps qui évoluent et une certaine dépendance, même physique, avec des réponses qui n'existent pas aujourd'hui dans les centres d'hébergement d'urgence, des aides humaines qui sont formatées pour des personnes qui sont capables de définir un projet de vie, et qui ont un lieu, un domicile. Mais pour les gens qui sont désocialisés, loin de tout, les exclus des exclus, et qui n'ont plus de domicile, il y a un chaînon manquant. Alors, c'est vrai qu'au SAMU social, on dépendait du ministère de Cécile Duflot, et quand on parlait handicap, il fallait voir Mme Carlotti, et qu'on sent que c'est parfois difficile de créer la transversalité et des budgets communs pour essayer de trouver des solutions. Bref, tout ça pour dire que il m'a semblé intéressant. Alors à l'époque, quand j'avais lancé l'idée, j'étais encore au SAMU social, mais je pense que l'idée peut être considérée comme toujours bonne, même si je n'y suis plus. Ça m'aurait intéressé de faire ce lien et de voir en quoi, d'une part en matière dans l'ordre de la prévention, on pouvait mieux décomposer les mécanismes qui pouvaient conduire du handicap physique, mais aussi psychique, et jusqu'à la précarité, jusqu'à la rue, et à l'inverse, voir comment la pauvreté pouvait être aussi, ou la précarité, un facteur aggravant, créateur ou aggravant de handicap. Et là, je dirais que ça rejoint aussi une thématique sur laquelle je travaille à EDF, qui touche à la précarité énergétique. Et on s'aperçoit aujourd'hui, il y a les premières études qui sortent, que le fait de ne pas pouvoir se chauffer correctement, que les moisissures s'installent dans des maisons vétustes, eh bien, ça crée des affections pulmonaires, cardiovasculaires, et qu'il y a aussi un lien clair entre précarité énergétique, en l'occurrence, et problèmes de santé, handicap respiratoire et autres. Donc voilà un petit peu la thématique qui me semblerait intéressante, handicap et pauvreté et handicap et précarité, parce que c'est vrai qu'on pense souvent de premier abord à des personnes qui ont la chance d'avoir un domicile, et je sais d'expérience, pour avoir fait un certain nombre de maraudes, la nuit avec mes équipes du SAMU social, que ce sont des gens que plus personne ne regarde, et le premier problème dont ils souffrent, c'est que plus personne ne se tourne vers eux pour leur dire ne serait-ce que bonjour ou vous avez besoin de quelque chose. Voilà, et donc ces gens-là, il ne faut pas les oublier, et je trouve que la FIRA s'honorerait de lancer un appel à projet sur cette thématique de handicap, précarité et pauvreté. Voilà.
Merci beaucoup. Dans quelques minutes, Axel Kahn va venir clôturer nos échanges, mais il a l'air d'opiner, donc il a l'air d'être d'accord pour que cet appel à projet se lance. Il faut évidemment lire le livre de Patrick Declercq sur les naufragés pour comprendre ce que c'est effectivement que la très grande précarité, et qu'en plus s'y ajoute le handicap, c'est encore plus dur. Une seconde carte blanche qui vous est donnée à vous, Aymeric Guillermoz, donc vous êtes avocat. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vous accueille ce soir, c'est parce que vous êtes le président de l'UNAFTC, qui a déjà été brillamment représenté par une porteuse de projet il y a quelques instants. Alors je tiens à préciser, parce qu'il y a un éthicien et scientifique qui est là, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas une surreprésentation de l'UNAFTC. Voilà, c'est un petit peu les hasards de la programmation. Et vous souhaitez nous parler d'un thème qui lui aussi est assez peu porté, qui est celui de la rupture identitaire.
Oui, tout à fait. En fait, tout à l'heure, on a parlé de la Convention internationale des droits, qui est une convention de 2007, ratifiée en 2010. Et on parle ici en même temps de recherche appliquée, donc d'accès aux droits. C'est-à-dire de faire le lien entre ce qu'on sait écrire aujourd'hui sur le plan éthique, sur le plan philosophique, sur le plan juridique, et puis ce qu'on en fait dans le vécu quotidien des personnes. Et on sent bien aujourd'hui que notre société est tiraillée entre deux pôles. On n'a jamais su aussi bien écrire des droits, tout simplement parce que depuis 1945, depuis l'horreur qui a été vécue, évidemment, la réaction qui s'imposait était de défendre ce principe d'unicité de l'être humain et ce principe de respect de l'être humain et surtout le principe de respect des plus fragiles, et Éric Molinier le rappelait, de ceux qui sont précaires mais aussi de ceux qui sont fragiles. Et finalement, tout être humain est fragile à un moment donné de son existence. Et donc, l'éthique, la philosophie, le droit sont faits justement pour défendre ceux qui sont fragiles et pour défendre cette unicité de l'être humain, y compris dans ces situations de fragilité. Et puis, en même temps, on parle d'accès aux droits fondamentaux, c'est-à-dire d'accès à une citoyenneté, mais pour avoir accès à cette citoyenneté, il faut encore être capable d'être sujet. Et avant d'être citoyen, avant d'avoir accès aux droits, il faut être sujet philosophiquement parlant, c'est-à-dire être un, unique. Et la particularité de la lésion cérébrale, c'est que par rapport à cette unicité, par rapport à l'identité, eh bien, lorsque quelqu'un est atteint par des lésions cérébrales, ce qu'il était avant est brisé. Et il y a un éparpillement, une rupture, qui est à la fois la rupture de ce qu'il était, la rupture de son histoire, et en même temps, à travers la rupture de cette histoire, qui faisait cohérence, parce que c'est notre mémoire qui fait notre cohérence en termes d'identité, eh bien, il y a une perte qu'on appelle la rupture identitaire. Alors, cette rupture, elle est à la fois celle du sujet, mais elle est en même temps celle de la famille, parce que, vous le savez, bien entendu, et ça, c'est ce qu'on appelle la systémie familiale, chaque identité dans une famille se renvoie. Il y a un effet de miroir. Et donc, chacun se reconnaît parce que l'autre le reconnaît comme tel. Et dans la société, c'est d'ailleurs un peu pareil. Nous nous reconnaissons tous parce que nous sommes reconnus. Et la particularité du vécu des traumatisés crâniens, des cérébraux lésés, c'est que lorsqu'ils sortent du centre de rééducation et qu'ils rentrent chez eux, eh bien, ce que l'on dit d'eux, c'est qu'ils ne sont plus les mêmes. On dit qu'ils sont un peu encore ce qu'ils étaient, mais certainement plus ce qu'ils étaient. Et donc, cette perte identitaire, cette rupture, pour moi, est quelque chose d'extrêmement particulier qui concerne, d'après certaines études, environ 150 000 personnes par an en France. Hein, ce sont des chiffres annoncés par les autorités. Et donc, ce ne sont pas des petites quantités. Mais en même temps, les enquêtes épidémiologiques qui auraient dû être menées ne l'ont jamais été. Alors, il y a un double problème par rapport à cette notion. Il y a un problème quantitatif, c'est-à-dire combien sont-ils à subir cette rupture identitaire ? Et je dirais que cette rupture identitaire, elle ne concerne à la limite pas qu'eux, c'est-à-dire qu'elle peut concerner n'importe quel homme qui subit un bouleversement fondamental et qui est privé de ce qu'il est. Et je dirais qu'être privé de ce qu'on est, c'est peut-être la pire des choses, c'est-à-dire ne plus arriver à être ce qu'on est, c'est peut-être le pire des enfermements. Et donc, l'idée, ça serait d'arriver à travailler sur une façon de pouvoir réhabiliter l'accès de ces personnes à une nouvelle identité et à essayer aussi de leur permettre de retrouver certaines racines pour sortir de cette souffrance. Et ça, ça peut se faire. Ça peut se faire tout d'abord par des études sociologiques, par une prise de conscience psychologique et aussi un accompagnement de proximité. On parlait tout à l'heure de l'expertise des proches. Les proches ne sont pas entendus aujourd'hui. Ils ne sont pas entendus. Alors que ce sont ceux qui sont les plus grands témoins. On a eu, dans le cadre des expertises des personnes cérébro-lésées, lorsqu'il y a des processus, par exemple, indemnitaires, on a eu pendant des années une croyance aveugle dans la médecine qui était censée de rendre compte. En fait, elle rendait compte de la lésion. Elle ne rendait pas compte, une image, une IRM ne rend pas compte du vécu d'une personne, ne rend pas compte de ses difficultés au quotidien. Et puis on s'est aperçu qu'il fallait faire ce qu'on a appelé des bilans neuropsychologiques qui étaient extrêmement abstraits parce que ce sont des questions mnésiques, de planification, d'initiative, etc. Et enfin, on est passé, mais grâce justement à ce qui était indiqué tout à l'heure, à cette notion d'interaction, le handicap étant bien entendu une restriction de participation, la situation de handicap étant une restriction de participation au sens de la classification internationale du fonctionnement et du handicap. À partir du moment où on a vu apparaître cette notion de restriction de participation, nous sommes parvenus enfin à faire entendre la parole des proches et qui étaient souvent disqualifiés parce qu'on leur disait « mais vous êtes un proche, donc votre vision est subjective, donc vous n'avez pas de légitimité, donc vous avez cru voir ou alors vous êtes excessif et subjectif ». Et puis sont apparues ce qu'on a appelé les évaluations ergothérapiques situationnelles qui ont appliqué la classification internationale du fonctionnement et du handicap et qui ont pu faire progresser ce regard. Mais on n'en est qu'au balbutiement de ces évaluations. Et elles sont très importantes pour nous parce que pour faire reconnaître la difficulté de ces personnes et donc les moyens de leur faire retrouver de manière très pragmatique une certaine citoyenneté, des droits, un retour à soi aussi sur le plan éthique, sur le plan de ce qu'est un sujet, eh bien, on a besoin effectivement de recherche, on a besoin d'un étayage. Et cet étayage, on pense effectivement que, et là on est véritablement dans de la recherche appliquée, on pense que c'est une recherche qui est passionnante parce qu'elle va être, à la croisée de plusieurs données. Elle va être à la croisée de données philosophiques, elle va être à la croisée de données sociologiques, de données scientifiques, de données environnementales, de données ergothérapiques, etc. Et faire travailler plusieurs corps, on parlait tout à l'heure de transversalité, de ne pas faire travailler les gens les uns à côté des autres. Eh bien, faire travailler ces corps-là ensemble sur une même problématique qui concerne finalement le sujet, donc en plus qui apporte une énorme plus-value éthique, ce serait certainement un enjeu formidable.
Merci infiniment.